nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, cette fête de l'invention de la Sainte Croix célèbre deux éléments historiques très importants. Le premier, c'est la découverte par Sainte Hélène, qui était la mère de l'empereur Constantin, qui fut le premier empereur romain à se convertir à la foi catholique et donc à arrêter les grandes persécutions. En 313, avec la paix de Milan. Et en 335, donc sa mère, après bien des vicissitudes, a réussi à redécouvrir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, avec un grand miracle à la clé qui est très connu historiquement parlant. Donc les travaux avaient été faits pour retrouver la croix de notre Seigneur. Et au fond d'une fosse, ils avaient trouvé les trois croix. Il y avait la croix des deux larrons avec la croix de notre Seigneur. Et comme le titulus, c'est-à-dire la petite plaque de bois sur laquelle était inscrit le motif de la condamnation, Jesus Christus Rex Nazareum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il ne savait pas quelle était la vraie croix. Et donc l'évêque de Jérusalem est allé chercher une vieille dame qui était extrêmement malade, mourante, et les soldats ont pris la dame et l'ont posée successivement sur les trois croix. Et sur l'une de ces trois croix, elle a été immédiatement guérie. Donc la Sainte Croix de notre Seigneur avait été retrouvée à ce moment-là, et Sainte Hélène a construit une première église magnifique à Jérusalem. Elle a divisé la croix en deux, une partie est restée à Jérusalem, et l'autre partie a été amenée à Rome, où elle est conservée à la basilique Sainte Croix de Jérusalem à Rome. Et cette fête de l'invention de la Sainte Croix célèbre un deuxième fait historique très important. Les Turcs avaient envahi Jérusalem, avaient volé la relique de la Sainte Croix. Et bien que ce fût des musulmans, comme ils considèrent notre Seigneur Jésus-Christ comme un prophète, ils ont respecté et vénéré la Sainte Croix. Et plus tard, lorsque l'empereur Héraclius, c'était en 628, lorsque l'empereur Héraclius a battu le roi des Perses, les Chosroïs, si mes souvenirs sont exacts, il a exigé, comme tribut de guerre, de récupérer la croix. Et la croix a été ramenée à Jérusalem à ce moment-là. Et là, il y a encore eu un deuxième miracle. Donc l'empereur a voulu reporter solennellement la croix au lieu où elle devait être conservée, dans la basilique de la Sainte-Croix à Jérusalem. Et au moment où il a voulu passer les remparts de la ville, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié à Jérusalem même, mais sur le Golgotha, qui est à peu près 800 mètres de Jérusalem, eh bien, une force mystérieuse l'a empêché d'avancer. Il ne pouvait plus avancer. C'est l'évêque de Jérusalem qui lui a dit, « Prenez garde, sire, puisqu'il était vêtu de tous ses vêtements royaux, qu'avec ces vêtements que vous avez, vous ne pouvez pas honorer l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors il a compris, il a déposé tous ses vêtements royaux, il a revêtu la robe des gens du peuple, et à ce moment il a pu porter la croix qui est allée être posée à l'endroit où elle devait être conservée. Et il y a un point très important en préparant ce sermon, j'ai retrouvé des textes des pères de l'Église, puisque c'est les pères de l'Église, encore une fois, qui ont la clé, n'oubliez pas, la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Il faut bien se garder de l'interprétation de l'Écriture sainte, d'avoir sa propre interprétation personnelle, si l'on tombe dans le protestantisme. Et les pères de l'Église parlent tous, en parlant de la croix, ils l'appellent l'arbre. Et ils expliquent qu'il y a deux arbres. Un arbre de vie et un arbre de mort. L'arbre de mort, c'est l'arbre du paradis terrestre. L'arbre qui avait été interdit par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu avait interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, trompés par le démon, vous connaissez l'histoire, le démon les avait roulés dans la farine, avec ses quatre mensonges qu'il utilise toujours aujourd'hui plus que jamais, parce que quand une ficelle marche, on continue de l'utiliser, évidemment. Rappelez-vous les quatre mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez parce que vous êtes devenus comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, trompés par le démon, ils ont désobéi, et cet arbre de la connaissance du bien et du mal est devenu un arbre de mort. C'est cet arbre qui a apporté au monde la mort physique et la mort spirituelle. Et les pères, quand ils parlent de la croix, ils parlent de l'arbre de vie. Donc c'est l'arbre de vie, le bois de la vie, qui détruit les conséquences de l'arbre de mort, l'arbre du péché originel. Donc cet arbre de vie, c'est l'arbre de la vérité. Donc il distingue deux arbres, l'arbre de faux, l'arbre de l'erreur et l'arbre de la vérité. L'arbre de l'erreur, c'est l'arbre du péché originel, qui a amené le péché originel sur Adam et Ève et ensuite sur toute sa descendance, toute leur descendance, et l'arbre de vie. Et on voit très bien les conséquences de ces arbres. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il fallait juger l'arbre à ses fruits. Donc quelles sont les conséquences de l'arbre de mort? L'arbre de mort, c'est d'abord l'orgueil, puis avec l'orgueil, la laideur. Et un troisième point aussi, que j'oublie tout le temps. L'orgueil, la laideur et la haine, trois choses qui sont jointes. Parce que l'homme tombe dans l'orgueil, se prend pour Dieu, se prenant pour Dieu, voulant décider par lui-même ce qui est bien mal, ce qu'on appelle la liberté de conscience, cela va entraîner la haine. L'orgueil travaille toujours avec la haine. Et comme c'est un arbre qui apporte l'erreur, l'erreur a toujours une laideur intrinsèque parce qu'elle va contre la nature de l'homme. Et donc il y a ces trois choses qui sont les trois fruits de cet arbre qui amènent la mort, donc la haine, l'orgueil et la laideur. Et au contraire, l'arbre de vie, l'arbre de la croix, qui est l'arbre de la vérité, apporte avec lui toujours trois choses. L'humilité, la charité, la beauté. Ça c'est très important à comprendre. Donc il faut se rappeler qu'il y a une laideur intrinsèque unie à l'erreur, unie à l'orgueil. Et cette laideur intrinsèque va être détruite par la beauté intrinsèque de la vérité. La vérité a une beauté qui est unie à cette vérité. Et ça, c'est un des travaux de la révolution, un des travaux de la révolution, d'essayer de nous faire croire que l'erreur peut être belle, que le péché peut être beau. Et c'est ce que fait le démon. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va couvrir le péché de peinture dorée pour donner l'impression que ce péché est beau. C'était le vieux père Calmel qui avait une expression que j'aimais beaucoup, qui est un peu vulgaire, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Mais il donnait cette définition pour expliquer ce qu'était la nouvelle messe. Et il disait, c'est une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. Bon, c'est peut-être pas très théologique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est ce que fait le démon. Le démon, qui va nous rouler dans la farine, justement, avec le péché originel, va recouvrir l'erreur de peinture dorée pour faire croire que l'erreur est attirante. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne prendrez pas du fruit défendu. Et qu'est-ce qu'a fait qu'elle fut la première erreur de d'Ève, explique justement les pères de l'Église. Ève, elle a contemplé le fruit défendu. Le simple fait qu'elle l'ait contemplé, c'est déjà la première erreur. Elle a contemplé le fruit défendu et elle a vu que ce fruit était beau, était attirant. La fausse beauté, la fausse attirance. Deuxième erreur d'Adam et Ève, surtout d'Ève, puis ensuite d'Adam, c'est de discuter avec le démon. Le démon est arrivé et a voulu parler avec elle. On ne parle pas avec le démon. Le cardinal Pie qui disait, si vous êtes invité à table avec le démon, mangez avec le démon, il vaut mieux pour vous utiliser une longue cuillère. C'est bien de ce que ça veut dire. Et donc, il faut rejeter l'arbre de mort et remplacer l'arbre de mort par l'arbre de vie. Et planter dans notre cœur cet arbre de vie qui est la croix de la sanctification. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous sauver avec autre chose que la croix. Ça aurait été plus facile. Il aurait pu nous sauver en nous donnant, en nous offrant une rose magnifique tous les matins. Il a voulu nous sauver par la croix. Pourquoi a-t-il voulu nous sauver par la croix? Les pères de l'Église se posent la question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous sauver d'une autre façon? La réponse est positive. Bien sûr que notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous sauver d'une autre façon. Mais s'il a voulu nous sauver par la croix, c'est qu'il savait que c'était le moyen le plus efficace pour nous sauver. Celui qui veut venir après moi, a-t-il dit, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il me suive. Donc la vie du chrétien, c'est quoi? La vie des chrétiens, c'est de prendre une hache, couper l'arbre de mort et remplacer l'arbre de mort par un arbre de vie. Et l'arbre de vie, il faut le protéger. Si vous avez une belle fleur dans votre jardin, mais vous ne l'arrosez jamais, elle va dépérir, elle va mourir. Mais l'arbre de vie que vous devez planter dans votre âme, dans le jardin de votre âme, qui est l'arbre de la croix, il faut s'en occuper. Parce que le démon va tout faire, évidemment, pour venir couper cet arbre de la croix. Et tous les textes liturgiques, pardon, les textes du bréviaire, nous aident à comprendre ces choses-là. Donc tout est basé sur l'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ qui a été obéissant à son Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu a donné à son Fils un nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou au ciel, sur la terre et dans les enfers doit fléchir. Pour que l'homme puisse reconnaître que Jésus-Christ est dans la gloire de son Père au ciel. L'homme devient grand quand il fléchit les genoux devant Dieu. Alors qu'au contraire, le démon fait tout pour pousser l'homme à se tenir debout devant Dieu. Je ne servirai pas. Donc l'arbre de mort entraîne cette révolte, je vous ai expliqué, l'orgueil, la laideur. Et le démon se tient devant Dieu, je ne servirai pas. Au contraire, l'arbre de vie qui lui amène l'humilité, qui amène la charité, qui amène la beauté, c'est la très sainte Vierge Marie qui dit qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Donc tout est basé sur l'humilité. Voilà pourquoi, je vous l'ai souvent dit, l'humilité et l'obéissance entraînent la charité. L'humilité permet l'obéissance. Et l'obéissance est la voie royale de la Sainte Croix. La voie royale de la Sainte Croix, c'est la voie de l'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ a sauvé les âmes par l'obéissance à son Père. Et donc nous, qui sommes ceux qui suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi nous sauver par l'obéissance. Donc il faut demander au bon Dieu, surtout pendant ce mois de Marie, ce mois de mai qui est consacré à sa Sainte Mère, il faut demander au bon Dieu de garder dans notre cœur donc cette humilité, cette charité. Et cela va donner à notre âme une beauté extraordinaire. Au contraire, à chaque fois que nous avons le malheur de perdre l'état de grâce, de tomber dans les mains du démon, dans les pattes du démon, alors à ce moment-là, eh bien, ça va être évidemment l'orgueil, ça va être la haine qui va arriver et ça va être la laideur. La révolution, c'est ça, c'est la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quoi? C'est la haine qui remplace la charité. C'est l'orgueil qui remplace l'humilité. C'est la laideur qui vient prendre la place de la beauté. Et l'évangile, à la fin, fait une allusion au serpent d'airain. Vous connaissez sans doute cette histoire. Lorsque Dieu a promené le peuple hébreu pendant 40 ans dans le désert, après qu'ils aient quitté la terre d'Égypte, avec le grand miracle de l'ouverture du passage de la mer Rouge pour laisser passer le peuple hébreu, la mer Rouge qui s'est refermée pour, au contraire, noyer toute l'armée de Pharaon. À cause des révoltes constantes du peuple hébreu, Dieu n'a pas voulu qu'ils arrivent directement à la terre promise. Et pendant 40 ans, ils vont pérégriner dans le désert. Et à cause de ces révoltes constantes, ça aussi c'est un point de méditation très important, pas un seul de ceux qui ont quitté l'Égypte est arrivé en terre promise, sauf deux personnes, Caleb et Josué, c'est tout. Même Moïse, le grand Moïse, n'a pas pu pénétrer en terre promise. Il l'a vu de loin, c'est tout. Même Moïse, excédé par les désobéissances, les révoltes constantes du peuple hébreu, fois le peuple hébreu se plaignait, comme il se plaignait tout le temps dans le désert, de la chaleur, de la marche, et se plaignait de plus rien avoir à boire pour les bêtes, les troupeaux et eux-mêmes. Alors Dieu a dit à Moïse, prenez votre bâton et frappez le rocher une fois. Et Moïse, le Père explique ça très, très bien, c'est magnifique. Au lieu de frapper une fois, elle a frappé deux fois. Et les pères de l'église expliquent que c'était un manque de foi. Il a cru qu'il frappait une fois, c'était pas suffisant. Alors par sécurité, il a frappé deux fois. Et à cause de ce manque de confiance de Moïse en Dieu, Moïse a été châtié et n'est pas rentré en terre promise. Mais notre terre promise à nous, c'est quoi? La terre promise à nous, c'est justement notre âme en état de grâce. Et notre foi, alors que le peuple hébreu se plaignait encore un peu plus, davantage que les autres jours, des difficultés de la marche, Dieu a envoyé pour les punir des petits serpents qui sortaient des sables, qui piquaient les Hébreux et ils mouraient à cause du venin du serpent. Alors ils sont venus demander pardon à Moïse en disant: intervenez, faites quelque chose pour que ces serpents disparaissent, pardon. Mais qu'est-ce qu'a dit Dieu? Dieu a dit à Moïse: mets un poteau au centre du camp et accroche à ce poteau un serpent en airain. Et tous ceux qui regarderont avec foi le serpent d'airain au centre du camp seront guéris des morsures des serpents. Et c'est ce qui s'est passé. Et tous ceux qui regardaient, après avoir été piqués par le serpent d'airain au centre du camp était guéri. Et les pères de l'Église expliquent: ce serpent d'airain, c'est le symbole de la croix. Le serpent d'airain, c'est le nouveau serpent qui détruit la malédiction du premier serpent. Le premier serpent, c'est qui? Le premier serpent, c'est le démon qui a pris la forme d'un serpent pour tromper Ève puis ensuite Adam. Donc le nouveau serpent, si vous voulez, le deuxième serpent, c'est le deuxième Adam. De même que le premier Adam a amené la destruction, la mort, l'orgueil, la laideur et la haine dans le monde, le deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, va amener dans le monde la charité, l'humilité et la beauté. Voilà pourquoi il faut mettre au centre de notre vie la croix. La croix, c'est justement ce serpent d'airain que nous regardons. Et si nous aussi nous regardons avec foi le serpent d'airain, à savoir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est fixée au-dessus de l'autel, eh bien nous serons guéris. Et cette croix doit être dans notre vie de tous les jours. Et comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu nous sauver par le bois de la croix le vendredi saint, bien il veut que cette croix continue, puisse continuer de nous sauver jour après jour ici-bas, parce que malheureusement, les péchés continuent de se multiplier sur le monde. Et donc, il faut savoir utiliser ce sang rédempteur que notre Seigneur Jésus-Christ a répandu une première fois il y a 2000 ans sur le calvaire et qui continue de répandre. Donc la foi, la croix, pardon, continue d'avoir son pouvoir sanctificateur, son pouvoir de salut. Et où trouvons-nous cette croix? Elle n'est pas simplement au-dessus de l'autel en bois, elle est de nouveau pendant la messe. C'est la messe qui nous donne la croix. Parce que la messe renouvelle d'une façon non sanglante le sacrifice de calvaire, et même si cette façon non sanglante, c'est une action, c'est pas simplement quelque chose qui fait mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. La messe, c'est le renouvellement non sanglant de la croix. Donc la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est de nouveau plantée sur le monde pendant la Sainte Messe. C'était la devise magnifique de Saint Bruno du Chartreux. La croix, le monde tourne, la croix demeure. Alors demandons au bon Dieu, mes bien chers frères, un grand, grand amour de cette croix. La croix, on a tendance à la refuser, à la rejeter, parce qu'évidemment, humainement parlant, la croix, c'est quelque chose de pénible à porter. Et on ne réalise même pas que la croix est l'unique moyen de salut. Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait que la croix, c'est la petite clé qui ouvre la porte du paradis. Donc il faut toujours la garder dans la poche, cette clé. De telle façon qu'on puisse ouvrir la porte le jour où on arrive à la porte du paradis. Et donc il faut demander au bon Dieu l'amour de la croix. Ce n'est pas une chose facile à demander. Parce que de nature, on aurait tendance à demander au bon Dieu de se débarrasser des croix. C'est pour ça que la plupart des gens qui n'ont pas compris ces choses-là, dès qu'il aura eu la moindre petite croix, oh mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, faites quelque chose, faites un miracle, enlevez-moi cette croix le plus vite possible. Et on ne comprend pas que la croix, c'est justement le moyen de salut. Au contraire, il faut demander non pas au bon Dieu d'enlever toutes nos croix, comme les païens le font, il faut demander au bon Dieu l'amour de la croix, c'est pas pareil. Si le bon Dieu nous donne telle ou telle croix pour telle ou telle personne, chaque croix est différente pour chaque personne, il sait très bien ce qu'il nous donne. Certains il va donner les croix au niveau de la santé, d'autres des croix au niveau de la santé psychologique, d'autres des croix au niveau professionnel, d'autres des croix au niveau familial. C'est différent pour chaque personne. On a tous nos croix. De Saint-Quirin, il disait aussi, malheur à vous si vous n'avez pas de croix. C'est la preuve que le bon Dieu vous a complètement abandonné. Donc si on a des croix, il faut se réjouir d'une certaine façon. Et comme la croix est quelque chose qui est naturellement, nous souhaitons, cherchons à refuser, à rejeter, il faut demander encore au bon Dieu l'amour de la croix. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter la croix que vous avez choisie pour moi, même si je ne la comprends pas, même si je ne l'aime pas, et même si je n'ai qu'un désir, c'est m'en débarrasser le plus vite possible. Et choisissons, ne cherchons pas trop à choisir nos croix par nous-mêmes. En général, on fait des grosses bêtises quand on fait ça. Il faut accepter la croix du bon Dieu. Et la force pour la porter, cette croix, vous la trouverez, vous et moi, nous la trouverons avec le Saint-Sacrifice de la messe. Voilà pourquoi le Saint-Sacrifice de la messe est le cœur de toute la chrétienté. Tout est centré sur le sacrifice de la messe. Et le jour où le sacrifice de la messe disparaîtra, ça sera la fin du monde. Parce que c'est la messe qui nous donne accès au sang qui nous rachète. Au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le jour où il n'y a plus de messe, parce que le dernier prêtre sera mort, eh bien ce jour-là, il n'y aura plus de croix possible. On n'aura plus la possibilité d'accéder au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera la fin du monde. Alors il faut demander toutes ces grâces. Mais bien, chers frères, demandez ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. C'est pas pour rien qu'elle était justement au pied de la croix. Si la très Sainte Vierge Marie a été placée au pied de la croix, c'est parce que le bon Dieu savait que la croix étant quelque chose qui est un peu naturellement répulsif pour nous, il a placé au pied de la croix la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, pour faire le contrepoids en quelque sorte. Le contrepoids du rejet naturel de la croix, c'est la très Sainte Vierge Marie. Elle est là, au pied de la croix, pour nous aider à lever les yeux vers le ciel. En levant les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'on va voir? En levant les yeux vers le ciel, on va voir le Sacré-Cœur, le lieu de refuge. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je serai élevé de terre sur la croix, j'attirerai tout à moi. Et qu'il ouvre son Sacré-Cœur pour nous dire, venez à moi, vous tous qui ployez sur le fardeau, et je vous referai. Et je vous donnerai la force de porter votre croix. Le bon Dieu ne nous a pas dit, venez à moi, je vous détruirai les croix. Parce qu'il a dit. Venez à moi, je vous donnerai la force de la porter, votre croix. En demandant cette force de porter nos croix, et même cette force d'aimer nos croix. Celui qui aime sa croix, qui a compris que la croix que le bon Dieu a choisie pour chacun d'entre nous est le moyen de salut, eh bien évidemment, il va comprendre que cette croix étant pour lui le moyen de salut, il va désirer qu'une seule chose, littéralement, c'est la garder. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, elle qui était si proche de la croix, justement, elle se tenait au pied de la croix, debout, courageusement, demandons-lui cette grâce de porter la croix. Sous cette croix terrible qui est la croix du 21e siècle pour nous chrétiens, la croix d'être orphelin d'autorité, la croix de ne pas avoir à Rome le pape, un pape pour nous aider à conserver la foi, mais au contraire un homme qui fait tout pour détruire cette foi catholique. Demandons cette force de ne jamais nous décourager. Demandons cette force de garder une vie intérieure véritable, profonde, afin que nous soyons capables de tenir le coup, de porter la croix jusqu'au bout. Et au bout du chemin, après avoir porté la croix courageusement, on la déposera à la porte du paradis. Au paradis, il n'y a pas de croix. Au paradis, la croix, elle est à l'extérieur du paradis. Plus de croix au paradis. Mais il y a la croix jusqu'à la porte. Donc portons-la courageusement cette croix, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, pour nous retrouver justement un jour tous ensemble au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.